je vais débuter avec la lecture, parce que je pense que la meilleure manière, à mon avis, de présenter un écrivain, c'est d'entendre ce qu'il a à dire. Il y a ici mon dernier roman, publié en 2007, L'alligator nommé Rosa. Peut-être par la suite, je lirai un extrait, quelques lignes. Ici, c'est le premier roman que j'ai publié, La dot de Sarah. Et je vais lire une nouvelle tirée de ce recueil qui s'intitule Le silence comme le sang. Le titre de la nouvelle, c'est « La maison face à la mer ». Les fenêtres donnent sur la plage. Après le drame, nous y avons mis des rideaux très épais qui sont tombés à tout jamais. La mer elle-même n'assistera plus au spectacle de notre malheur ni à celui de notre délivrance. Pour nous, c'est sans doute une autre façon d'atténuer les ombres qui, obstinément, se dressent sur la grève entre la mer et nous. Le jour, tout va bien. Dans le va-et-vient du quotidien, il est moins nécessaire de faire semblant. Cependant, dès que vient le soir, dans l'obscurité, nous pensons à eux. Nous pensons aussi à lui, là-haut, à Rochelle, dans ce petit palais qu'il s'est fait construire au milieu des bois. Me revient alors la même phrase, pénible et lancinante, avec les mêmes mots. Tout s'est terminé, ou plutôt tout a débuté, en cette veille de la Saint-Sylvestre, où il s'arrêta pour venir en aide à un motocycliste. Derrière les fenêtres closes, je vis avec Adrienne, ma mère. Nous sommes deux ombres, deux fantômes dérivant sur les rives de l'absence. Nous sommes les cendres d'une existence dont nul ne se souvient plus. La plupart des familles qui, comme nous, ont vécu ce qui s'est passé en cette veille de la Saint-Sylvestre sont parties, emportant avec elles ce qui leur restait de lambeaux et de miettes. Ont-elles pu oublier? Ont-elles pu trouver la paix? Nous ne quitterons pas Sapotille. Lorsque j'étais enfant, le monde pour moi se résumait à cette ville, ses maisons aux grandes galeries et leurs cours ombragées. La nôtre, la cour de notre maison, c'était mon royaume. Il y avait le grenadier, ses fleurs rouges et ses fruits. C'était mon palais des merveilles. Il y avait le bassin où naviguaient des bateaux qui n'étaient rien d'autre que les feuilles des arbres et le grand pied de fruits à pain avec ses feuilles en parasol. C'était le roi de mon royaume. Il y avait tous mes sujets, mes frères, et bien sûr Philippe, à qui je pensais, assis à califourchon sur les branches du grenadier. Le grenadier est toujours là. J'écarte le rideau pour y jeter un coup d'œil furtif. Lorsque j'étais enfant, le monde, c'était l'église de Sapotille et son clocher qui domine la butte Jacob et surplombe l'océan. Sapotille, dont les maisons sont rongées par le sel de la mer, qui, lors des grandes marées, écorche leurs flancs. Sapotille, que je n'ai jamais quittée, demeure encore pour moi le monde à qui j'ai donné tout ce que mon cœur pouvait contenir d'amour, de haine et de passion. À maman et à moi qui n'avons plus rien à chérir, même pas des initiales gravées sur une pierre dans un cimetière, les rues défoncées, le murmure infini de la grève et les souvenirs. C'est tout ce qu'il nous reste. Nous ne pouvons les abandonner. Les souvenirs sont d'affreux geôliers, d'ignobles tyrans. Ils nous tenaillent, nous poursuivent, nous possèdent et règlent notre existence depuis ce jour. À cause d'eux, maman et moi, nous sommes devenus muettes comme des pierres, ne sachant d'autre langage que celui qu'il nous dicte. Quelquefois, maman écrit. Elle avait rêvé jadis d'être écrivain. Mais dans ce pays où il n'y a toujours eu de place que pour les puissants et leur démence, Adrienne avait dû enterrer très tôt ce désir des mots. Elle avait sagement rangé ses cahiers et ses crayons. Mais quand la douleur devient trop crue, elle les sort, en chasse la poussière et écrit pour essayer d'atténuer ce chagrin qui, comme une fièvre maligne, a pris possession de toute son existence. Tout s'est terminé, ou plutôt, tout a débuté en cette veille de la Saint-Sylvestre où il s'arrêta pour venir en aide à un motocycliste. Derrière les fenêtres closes, Adrienne et moi, deux îlots à la dérive de la grande île, Sapotille, cette ville qui continue à vivre, à respirer, nous ne savons trop comment. Longtemps nous nous sommes interrogés, longtemps nous nous sommes demandé comment tout cela a bien pu arriver et surtout, comment avons-nous pu trouver la force de continuer. Comment l'être humain, nous demandions-nous, peut-il survivre à tant d'horreurs? Nous ne voulons plus aller au fond des choses désormais. C'est inutile. Il ne nous reste plus qu'à être. Le désir d'une fin qui nous délivrerait de tout est la seule chose vivante dans cette maison qui regarde la mer. Il est là, palpitant, blotti en nous, tel un enfant que nous ne finissons plus de porter. Tous les autres, ceux qui ne sont pas morts, sont partis, abandonnant Sapotille à cette saison interminable de peur et de déraison. Ils s'en sont allés sur la pointe des pieds. Le dernier à partir, Guy le Benjamin, celui qu'ils ont épargné par mégarde parce que ce jour-là, il s'était endormi dans le grenier, a traversé la frontière dans des habits de femme, enfilés à la hâte, une longue jupe de paysanne pour cacher ses mollets velus. Il avait essayé de tenir avec nous, mais il a fini, lui aussi, par faire ce choix terrible, partir. Puisqu'on ne saurait exorciser le passé, puisque tous les autres étaient morts et qu'il était là, lui, là-haut, avec ses gardes et ses chiens, sa piscine et ses chevaux, puisqu'on n'y pouvait rien, il ne restait plus qu'à fuir. Voilà les derniers mots que Guy nous avait dit avant de s'enfoncer dans la nuit de l'oubli, il y a 30 ans déjà. Lui, là-haut, il s'appelle Philippe, Philippe Breton. Je vous dis son nom afin que, comme moi, vous vous souveniez. Il a été mon fiancé. Il a grandi avec nous, avec mes frères, Karl, Jacques et les autres, et avec moi. Moi qui l'aimais depuis, je ne sais plus. Enfant, je rêvais déjà à lui dans les branches du grenadier. À 18 ans, j'aimais Philippe de cet amour des 18 ans que l'on ne sait point nommer. Enfant, jouant aux billes, Philippe s'était écorché les genoux sur les mêmes cailloux que mes fils, écrit encore ma mère. Les frères de Marie, ça, ils étaient 6, s'étaient mesurés à lui sur le chemin de l'école. Ils avaient ensemble couru sur la plage, plongé dans la mousse des vagues, s'éclaboussant et riant. Souvent, il avait mangé à notre table le midi à côté de mes fils. Avec mon aîné, Jacques, il avait passé des soirées entières à lire dans le grenier. Combien de fois le sommeil les avait-il surpris tous les deux, épuisés, les paupières lourdes? Combien de fois, oui, je les avais contemplés avant de me résoudre à les réveiller pour surprendre Philippe, l'air hébété et confus au milieu des bouquins qu'il voulait lire tous en même temps. Cette bibliothèque dans le grenier appartenait à mon père et seuls Jacques et Philippe avaient ainsi le droit de s'y installer. À l'époque, Philippe était un garçon doux, respectueux, empressé et bûcheur, qualité que mon père, professeur attentif, savait apprécier. Ce garçon ira loin, disait mon père, plein d'admiration et me jetant un regard à la dérobée. Mon père, Daniel Saint-Cyrien, était avocat, mais il avait cessé toute pratique, car il avait compris, comme il aimait à le dire, que les jours n'allaient plus être les mêmes, ni à Sapotille, ni dans aucune autre région du pays. Ceux qui avaient décidé de tout contrôler étaient ainsi résolus à transformer les habitants du pays en spectateurs de leur propre existence. Tout s'est terminé, ou plutôt tout a débuté. En cette veille de la Saint-Sylvestre, je venais d'avoir 19 ans et Philippe 24. Revenant d'une visite, mon père, qui débouchait du carrefour des quatre chemins, tomba sur un motocycliste en panne. « Comment, Philippe, toi, à cette heure ?»« N'approchez pas, monsieur Saint-Cyrien, laissa tomber Philippe d'une voix froide et pleine de défis. » Malgré l'obscurité, mon père se rendit compte que Philippe avait non seulement les yeux injectés de sang, mais que ses mains et ses vêtements étaient aussi couverts du rouge le plus vif. Il essayait maladroitement de dissimuler un revolver dont mon père aperçut l'éclat de la crosse dans la pénombre. Il ne pouvait retrouver le visage de ce Philippe intelligent et bûcheur qu'il connaissait depuis toujours. À quelques pas de lui se tenait un être défiguré par la haine, prêt à lui tirer dessus. « Toi aussi, Philippe ? Maintenant que vous savez, monsieur Saint-Cyrien, que comptez-vous faire ?» Mon père tourna les talons et s'en fut le cœur soulevé de tristesse et de dégoût. Le lendemain, il se réveilla plus tôt que d'habitude et nous parla longuement à mes frères et à moi. Maman savait déjà, elle avait la tête d'un condamné à mort, les yeux cernés et rougis par une nuit sans sommeil. Sans détour, papa nous parla de Philippe et des gens comme lui que l'on recrutait partout et que l'on dressait à tuer. Il nous expliqua leur rôle dans ce climat de terreur qui s'était abattu sur Sapotille et le pays tout entier. L'odeur fétide de la corruption, du crime et des trahisons sans nombre a désormais envahi nos demeures, nous dit-il pour terminer. Viendra un jour où ces types mangeront sans hésiter la chair de leur propre mère. Il y avait longtemps déjà que Philippe, prétextant préparer des examens, ne venait que rarement à la maison. Je savais, poursuivit mon père, que cette désertion cachait quelque chose d'étrange. Mais je priais le ciel, avec l'espoir idiot que tout ce qu'on chuchotait à son sujet n'était que calomnie. Il me regarda droit dans les yeux, nous nous étions tout dit. De ce moment, détresse et rage confondues remplacèrent dans mon corps le sang. Je vivais avec la sensation d'une ombre épaisse s'étalant sur mon cœur. Mes frères, nerveux, venaient dans ma chambre à pas de loup m'apporter les nouvelles. Nous parlions à voix basse. Ils avaient déjà perdu plusieurs de leurs amis. Personne ne savait si ceux qui disparaissaient étaient en prison ou s'ils avaient été tués. Ils n'étaient plus là, simplement. Leurs parents, lorsqu'ils n'avaient pas été emmenés eux aussi, se barricadaient, effrayés, sans savoir où aller ni à qui s'adresser. Tout comme nous, ils attendaient chez eux en tremblant à chaque fois que passait un camion dans la nuit. Ils arrivèrent au milieu de la nuit, armés jusqu'aux dents. Certains portaient des cagoules noires. Philippe était-il parmi eux ? Je ne voulais pas le savoir. Je n'oublierai jamais le regard désespéré de maman, le mouchoir qu'elle s'enfonçait dans la bouche pour ne pas hurler. Ils emmenèrent Jacques, Daniel, Karl, Victor et Antoine et bien sûr papa. Nous savions qu'aucun de ceux que l'on emmenait ne revenait. Mais nous nous sommes accrochés à une phrase du commandant. Nous allons simplement les conduire au poste, leur poser quelques questions. Combien de jours et de nuits passèrent ? Ils ne revinrent ni l'un ni l'autre jusqu'à ce jour. Cet attroupement sur la grève, ces lambeaux de chemise qui flottaient, ces corps bouffis et méconnaissables que la mer vomissait. Des habitants de Sapotille, des mères en pleurs, descendirent en courant jusqu'à la plage pour essayer d'identifier les corps. Adrielle et moi, nous sommes demeurés à la fenêtre. Le soleil sur la mer avait ce jour-là couleur de sang. Comment dire le tumulte et les cris qui s'élevaient de la plage ? Comment dire ce chaos qui, depuis lors, s'est installé dans notre vie ? Tard dans la nuit, les dernières femmes retournèrent chez elles. Silencieuses, elles remontèrent la butte Jacob et s'enfuirent avec dans la tête la voix de la mer, comme un tocsin. Puis tout s'arrêta, les jours, les heures. Et nous nous sommes installés pour toujours, maman et moi, dans le tournis de l'absence, face à la mer que nous avons fini d'interroger. Le jour, lorsque du bas de la ville nous arrivent les bruits du marché et les échos de la vie qui joue à faire semblant d'avoir oublié. Le jour, dans le tumulte du quotidien, nous jouons aussi à faire semblant. Mais dès que vient le soir, surtout à l'approche de décembre, quand revient la Saint-Sylvestre, nous retrouvons dans chaque son, dans chaque geste, chaque éclat de lumière, ce carrousel infernal de morts vivants et de spectres qui hanteront à jamais Sapotille et notre maison face à la mer. Voilà, c'est une nouvelle parmi les cinq qui composent ce recueil, qui est le troisième ouvrage que j'ai publié en 96 ou 97-96. Depuis lors, beaucoup d'autres textes ont paru, parmi lesquels des textes pour enfants. J'ai commencé à écrire, je pense que j'étais adolescente à l'âge des questionnements, l'âge où on veut comprendre, l'âge où on essaie de comprendre. Puis je suis allée vivre à Montréal, j'avais 16 ans à l'époque. On est en 1970 et quelque part, quelques années plus tard, les Chiliens arrivent en 1973, une communauté qui arrive avec beaucoup de, une grande, comment dire, tradition de lutte et d'organisation que nous avions perdue en Haïti. Parce que lorsque Duvalier est arrivé au pouvoir, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est de supprimer les organisations paysannes, les organisations étudiantes, les organisations culturelles. Les gens n'avaient pas l'habitude de s'organiser. Et avec les Chiliens, dont je me sentais très proche, je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, entre autres, à nommer le mal dont souffrait Haïti. À partir de ce moment-là, mon écriture a pris une tournure, mais vraiment, enfin, qui devait déterminer tout ce que j'ai fait par la suite. Une écriture très militante. J'écrivais beaucoup à cette époque pour ce qu'on appelle les soirées de solidarité, qui étaient très, très nombreuses. Dommage, ce temps n'est plus là, ce temps n'est plus le même. Et par la suite, on a eu des Guatémaltèques, des Salvadoriens qui sont arrivés. Toujours avec cette même tradition de lutte et ce désir de voir les choses changer en Amérique du Sud. Et c'est une écriture qu'on appelle en quelque sorte une écriture de circonstance. J'écrivais non seulement pour les soirées de solidarité, mais je faisais aussi des traductions pour les gens qui écrivaient en espagnol pour pouvoir animer ces soirées de solidarité. Et jusqu'au livre pour enfants que j'ai écrite, entre autres Alexis d'Haïti, Alexis fils de Raphaël, porte en quelque sorte l'empreinte de ces années de militance. J'ai été aussi très proche de ce qu'on appelle les groupes de femmes. Quand je suis arrivée au Québec, c'était une époque où le Québec, je ne dis pas que sortait de ce qu'on appelle la Révolution tranquille, mais la Révolution tranquille était quelque chose d'assez vivant et les luttes de femmes assez très, très, très présentes. Et je peux dire que j'ai bénéficié un peu de ce climat de revendication, de ce climat de liberté de la parole, de ce renouveau dans la parole écrite au Québec, qui est beaucoup plus libre. Et je crois que voilà, c'est un peu ce qui caractérise mon écriture, ce désir de revendiquer. Mes livres sont écrits dans une perspective féministe d'abord, mais aussi dans une volonté de dire les choses que l'on ne dit pas, par exemple, dans un pays comme Haïti. Il y a ce recueil de nouvelles, il y a aussi l'alligator, un alligator nommé Rosa, qui font appel à la mémoire, une mémoire beaucoup plus récente, la mémoire de la dictature. Ce livre, c'est un livre qui parle de l'impunité. C'est un roman sur l'impunité, où les notions de pardon, de résilience, au fait, il s'agit de la rencontre d'un bourreau et de sa victime. Dans ce cas, le bourreau est une femme. C'est un livre que j'ai écrit basé sur une histoire réelle. Une femme qui, pendant des années, avait été chef des escadrons de la mort sous Duvalier. Elle dirigeait la police privée de Duvalier, qu'on appelait les tontons macoutes, ces gens dont il avait, enfin, abusé de l'ignorance en quelque sorte. En fait, c'était une armée composée de paysans illettrés qu'il avait recrutés dans les montagnes et qu'il avait armés et à qui il avait donné plein pouvoir sur tout le monde. Et ces gens-là terrorisaient, terrifiaient, et cette femme, pendant des années, a dirigé cette troupe de miliciens. Et voilà, je ne sais pas si à travers les questions que vous allez me poser, si j'ai voulu vous donner un avant-goût un peu de ce que je fais comme travail. Et je pourrais lire un peu de poésie par la suite et peut-être un extrait de l'alligator, mais j'aimerais plutôt que ça soit un échange plus qu'un, qu'un discours.
Merci beaucoup. Je
ne connaissais
pas encore la nouvelle, mais je vous remercie. Je crois qu'il y a des questions.
J'aimerais mentionner avant que nous passions aux questions, ce qui est important pour moi dans l'écriture, ce n'est pas tant de parler d'Haïti. J'écris, je pense qu'un écrivain est un peu un archéologue, c'est quelqu'un qui... L'écriture, c'est quelque chose qui vient profondément du dedans, profondément des racines. Lorsque j'écris, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de souvenirs qui affleurent, il y a des atmosphères de l'enfance que je recrée, cette enfance en Haïti, parce que j'ai grandi en Haïti, quand je suis partie, je suis restée 20 ans sans retourner en Haïti. C'était pas quelque chose de... Je me suis imposé cet exil en quelque sorte. J'aurais pu retourner, beaucoup de gens retournaient. Mais pour moi qui me suis toujours sentie mais vraiment très blessée par ce régime de Duvalier, il était... C'est-à-dire ça n'avait aucun sens de rentrer en Haïti comme touriste. Et je m'étais toujours dit, tant et aussi longtemps que cette dictature sera en place, je ne mettrai pas les pieds en Haïti. Mon premier retour, c'était en 91. Lorsqu'on pensait, enfin, les Haïtiens et beaucoup d'autres gens, que nous étions un peu au bout du tunnel avec une lueur de démocratie, avec des élections qui avaient eu lieu en 91. Ça a été mon premier retour en Haïti. Par la suite, je suis retournée en 92 pour participer à un congrès sur la violence contre les femmes, parce qu'à partir du coup d'État contre Aristide, il y a eu énormément de violence parce que les organisations de femmes étaient très très présentes, très 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 présentes dans le pays et tant dans la capitale qu'à l'extérieur à partir des années 80. Parce que la chute de Duvalier en 80, c'était pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Il y a eu dans toute l'Amérique latine ce qu'on appelle ces mouvements avec les prêtres de la théologie de la libération. Et Haïti, c'était prise un peu dans le même courant. Et tout ça a donné, un désir à tout le monde de se mobiliser, les femmes comme les hommes. Et il y avait énormément de groupes de femmes. Alors elles ont été victimes et vous savez que quand il y a une situation de guerre et de violence, les femmes sont doublement victimes. Non seulement elles sont victimes au même titre que les autres, que les hommes, mais il y a aussi les viols. Il y a eu une situation de viol collectif. Le viol est devenu une arme à partir de cette époque. Et en 92, nous avons fait... les femmes en Haïti ont organisé un congrès pour dénoncer cette situation et c'était mon deuxième retour en Haïti. Et depuis 3 ans, j'ai essayé de renouer les liens de manière beaucoup plus fort avec Haïti, essayer de reprendre contact, de faire une réinsertion en quelque sorte, de redécouvrir le pays, de le réapprendre. Et puis il y a eu... Pour la première fois, j'ai passé 2 mois en Haïti à aller dans les écoles. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. J'ai publié 7 livres à peu près pour les tout-petits. Et il y a eu ce coup d'état de la nature contre notre pays maintenant. Et je ne sais pas trop encore ce qui va se passer. Alors, je voulais donner cette précision qu'il y a... Et quand j'écris, c'est-à-dire il y a Haïti qui est présente parce que c'est mon enfance, parce que ce sont mes racines, mais c'est une parole que je veux beaucoup plus universelle. Parce que pour moi, que ce soit Haïti, que ce soit les pays d'Afrique ou de l'Amérique latine, c'est la même situation et elle me touche profondément. Mon identité est plutôt l'identité d'une personne du tiers-monde. C'est-à-dire je ne me définis pas... Je suis née en Haïti, mais comme haïtienne, c'est pas ça l'important pour moi. L'important, c'est ma place dans le monde, comment le monde est divisé et un choix idéologique qui détermine mon identité. Alors, c'est un peu ça que je voulais préciser. Et j'espère que vous n'allez pas tous me regarder comme ça. Je vais... Oui, je vous écoute.
Oui, ça veut dire, si je vous ai bien compris, votre écriture n'a pas beaucoup changé depuis ces
Je ne dirais pas qu'elle n'a pas beaucoup changé, parce que l'écriture, c'est aussi de l'exploration. Vous voyez, quand on regarde les textes du début, les textes d'aujourd'hui, il y a toujours ce désir d'une parole que je veux faire entendre, mais bien sûr, elle a évolué. Parce que bon, il y a quand même, entre 96, quand je publiais ce livre, et 2007, j'imagine que mes éditeurs eux-mêmes seraient désespérés si ça ne bougeait pas. J'ai d'autres textes aussi, des textes autres que des livres que je publie dans des revues quand on me demande, et l'écriture change, mais il y a toujours cette volonté de revendication, cette volonté de faire entendre les voix que l'on n'entend pas. C'est un peu ça, parce que je crois que lorsqu'on décide de prendre la parole, il faut qu'elle serve à quelque chose. Enfin, ce sont mes convictions. Je ne prétends pas parler au nom de tout le monde, mais ce sont mes convictions, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens qui prennent la parole ont besoin que cette parole pèse son pesant d'or, parce qu'on vit dans des sociétés où, par exemple, tous les acquis des femmes, par exemple, au Québec, tous ces acquis des années 60, tout ce pourquoi les gens se sont battus, mais vraiment, on est en train de les perdre dans un système néolibéral où il n'y a plus de place pour les êtres humains. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le livre d'Emma ». Beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est un livre sur l'esclavage. Non, à mon avis, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre sur la détresse humaine, la détresse des êtres humains. Bien entendu, mon personnage me ressemble, c'est une femme noire, c'est une caribéenne, c'est une femme... mais c'est un livre... à mon avis, qui va au-delà de la simple question de la couleur de la peau ou d'une question de l'esclavage. Ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser le passé pour jeter un regard sur la condition des êtres humains aujourd'hui. Alors, je ne suis pas prête à dire qu'elle n'a pas changé, ni dans la forme, ni dans le fond, peut-être, bon, il y a des variantes, mais dans la forme, l'écriture change beaucoup, et j'espère qu'elle va continuer à évoluer. Est très concerné, parce que je ne manque jamais l'occasion de rappeler aux gens que ce que vivent nos pays les concerne, parce que nous ne sommes pas chacun sur une planète différente. Haïti, qui est mon pays d'origine, a d'abord été occupé par les Espagnols, ensuite par les Français. Les Anglais ont été présents. L'Allemagne a rempli un rôle très très important en Afrique, ce que les Allemands ignorent. Tout de suite après l'indépendance, des Allemands se sont installés en Haïti. Pendant plusieurs années, jusqu'à l'occupation américaine en 1915, tout le commerce d'Haïti, les banques d'Haïti, appartenaient littéralement aux Allemands. C'est-à-dire l'histoire de nos pays, on est en train de l'écrire actuellement. Et c'est faux de dire que ça ne concerne pas l'Occident. Je ne manque jamais de dire que mon histoire est aussi la vôtre. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon histoire est aussi la vôtre. Oui.
J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi Montréal ou le Québec comme ville ou province de refuge, comme ville d'hôte.
Au fait,
c'est à cause des influences cosmopolites ou...
Non. Je dois dire que lorsque je suis arrivée au Canada, d'ailleurs, ce n'était pas une décision... personnel, parce que j'étais quand même... Aujourd'hui, les adolescents de 16 ans peuvent décider de ce qu'ils veulent faire. Mais à l'époque, non. C'était une décision familiale. Et il faut dire que le Québec sortait de la Révolution tranquille avec la libéralisation de l'enseignement, ouvrait grandement les portes aux immigrants francophones. C'est un pays qui, encore aujourd'hui, a une politique d'immigration, a besoin d'immigrants. Il y a des pays qui ne peuvent pas se permettre le luxe de ne pas avoir d'immigrants. Ils ne voudraient pas, mais ils n'ont pas le choix. La population vieillit, ils ont besoin d'immigrants. Aujourd'hui, ils choisissent comme on choisit, vous savez, dans un magasin, ce qui nous plaît. Mais à l'époque, ils avaient ouvert très grande les portes pour accueillir les Haïtiens qui fuyaient le régime de Duvalier, des gens qui étaient très bien formés, parce qu'Haïti n'est pas ce qu'on voit à la télévision, n'était pas ce qu'on voit à la télévision, un pays totalement livré à la racaille. Nous avions un système d'éducation que l'on pouvait comparer à celui, calqué sur celui de la France. Vous voyez, des gens très très bien formés, beaucoup de professeurs, de médecins, d'infirmières sont allés vivre au Québec. Ils n'ont pas été formés au Québec, ils sont venus avec leur formation, ils n'ont pas eu à reprendre des cours, ou presque pas. Vous voyez, c'était des gens assez bien éduqués. Parce que nous avons eu notre indépendance en 1804 et tout de suite après, les gens, nous avons une tradition littéraire, une tradition d'éducation assez bonne. Alors, c'était des immigrants qu'on accueillait sans problème. À cette époque-là, ce n'était pas difficile de s'installer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Même avec les besoins d'immigration, ce n'est pas facile parce que tous les pays sont aux prises avec les problèmes de chômage, de cette fameuse crise qui frappe partout. Mais à l'époque, ce n'était pas difficile. On allait où on nous recevait, où les portes étaient ouvertes. Mais je ne peux pas dire que j'ai regretté d'être allé vivre au Québec parce que les États-Unis, je pense que je n'aurais pas pu vivre dans ce pays. J'estime que les gens qui arrivent à s'y faire sont pour moi comme des héros. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je trouve ça très difficile, même en voyage aux États-Unis. C'est comme un système qui m'effraie à la rigueur. Le Québec est très différent, il faut dire. C'est un autre rythme de vie, et une autre manière de voir la vie aussi, une autre manière de penser. Il n'y a pas autant de violence, mais ce n'était pas un choix au départ. Le choix est arrivé plus tard. Allez-y.
Vous avez dit que vous avez passé longtemps d'exil au Québec.
Oui.
Et à Haïti, il y avait une situation de bailleur. En fait, vous avez retrouvé la liberté de parole au Québec.
Oui.
Alors, j'aimerais savoir, quand vous vous êtes mis à écrire, est-ce que vos livres avaient été accessibles au niveau d'identité et quel était le sort? Est-ce qu'il y avait de la censure de la part des autorités?
Au fait, lorsque j'ai commencé à publier en 94-95, on était déjà dans une autre étape en Haïti où la dictature de Jean-Claude Duvalier avait été renversée et on était plutôt dans un processus de reconquête de cette parole. Alors les livres sont assez bien accueillis en Haïti, je m'y suis rendue à quelques reprises pour des conférences, pour des lancements, et ils sont quand même bien accueillis. C'est-à-dire, Haïti a du mal à sortir de cet état de léthargie en quelque sorte, mais il y a un acquis, c'est l'acquis de la parole qui demeure depuis les années 80, quoi, où on a progressivement renverser la dictature, sortir de tout ça, c'est pas facile, mais on ne vit plus cette situation de censure et de bâillonnement. Vous voyez ?